Bonjour et bienvenue dans Le Mammouth, un podcast sur l'éducation. Cette deuxième émission s'intéresse aux établissements en lutte en cette rentrée 2019, aux revendications des enseignants et aux moyens d'action qu'ils mettent en place. Ça nous permettra de parler de nombreux sujets, tels que la réforme du lycée et son impact, l'injonction au numérique, la précarité des contractuels et l'article 1, le fameux droit de réserve. J'avais vu passer sur les groupes de profs où je suis inscrit, comme le groupe des stylos rouges ou le groupe intitulé 800 000 feignasses, que des établissements s'étaient mis en grève dès la pré-rentrée, ainsi que le jour de l'accueil des élèves. J'ai voulu en savoir plus, mais j'ai trouvé que très peu d'informations. C'est pourquoi j'ai proposé à des collègues d'établissements ayant fait grève en septembre de venir témoigner, et trois d'entre eux sont présents aujourd'hui. L'enregistrement a lieu au bar Le Charlie et sa bière à deux balles, dans le 11e arrondissement de Paris. On les remercie encore pour leur accueil. Bonjour à tous. Est-ce que pour commencer, vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît?
Bonjour, moi c'est Lise, je suis professeure d'anglais dans un lycée du Blanc-Ménil.
Bonjour, je m'appelle Célia, je suis professeure de lettres classiques dans un lycée du Val-de-Marne.
Bonjour, donc moi c'est Mohamed et professeur de mathématiques au lycée Angela Davis de Saint-Denis.
Donc pourquoi est-ce que vous étiez en grève dès la rentrée? Qu'est-ce que dans chacun de vos établissements, quelles étaient les raisons de cette colère le 30 août?
Alors nous effectivement on s'est mis en grève dès la première semaine. Donc on a fait la pré-rentrée, mais on a appris en fait en plein été qu'au lieu d'avoir 5 premières générales, finalement on allait en avoir que 4. Donc du coup, des classes surchargées à 35, c'en est doublement. Donc déjà ça, ce n'est pas passé auprès des collègues. Il y a eu aussi des soucis au niveau des répartitions, c'est-à-dire en fait les heures qu'on donne aux professeurs, donc les classes. Donc il a fallu revoir ça. Et du coup, effectivement, on s'est mis en grève dès la rentrée des élèves. Donc, on ne les a pas accueillis la première semaine. Donc, on va dire que c'était vraiment le problème qui a... La goutte de trop, on va dire, qui a fait déborder le vase.
Et donc, vous n'étiez pas là donc, le premier jour. Donc, c'est-à-dire que les élèves, qu'est-ce qui s'est passé pour eux ce premier jour de rentrée?
Alors, on était devant le lycée, malgré tout. Donc, voilà, on a distribué des tracts. On a expliqué pourquoi on faisait cette grève. Donc ils nous ont compris, ils nous soutenaient. D'ailleurs il y a même des parents qui nous ont rejoints, donc pas le premier jour mais les jours d'après. Donc ça quand même, voilà, c'est agréable d'être soutenu, donc des parents et des élèves. Effectivement ils nous comprenaient, mais ils étaient quand même un peu stressés parce que déjà c'est une nouvelle rentrée, je veux dire un nouveau fonctionnement du lycée. Il y a la disparition des filières, les profs se mettent en grève dès la rentrée, donc effectivement c'était un peu stressant.
Ça leur montre que quelque chose ne va pas.
Exactement.
Tu disais là, c'est la goutte d'eau, donc ça veut dire que ça s'ajoute à d'autres choses. Est-ce qu'en résumé, c'est quoi les autres problèmes qu'il y a dans, pas forcément dans votre établissement en particulier, mais en France, quoi.
Alors, je vais peut-être commencer rapidement par les petits soucis locaux.
Ouais.
Déjà, dans le lycée, il y a un gros problème, c'est qu'on a la spécialité informatique qui a ouvert, mais en fait, nos ordinateurs ne fonctionnent pas. Donc, on n'a pas de référent informatique dans notre bahut. Pourtant, on a la spécialité NSI, donc justement, hein, où les élèves devraient utiliser les ordinateurs. Donc, aujourd'hui, on n'a toujours pas de connexion de réseau informatique. Donc, il est impossible pour les collègues et les élèves, justement, de faire les cours normalement. Alors malgré tout, la direction demande aux collègues de prendre les élèves, de se débrouiller avec les moyens du bord, mais ce n'est pas évident.
Ouais, donc on fait quoi en cours d'informatique quand on n'a pas de PC?
J'en discute avec les collègues, ils essayent de faire des choses à la main, mais c'est pas pratique et puis c'est chiant. Quoi. Que ce soit pour les élèves ou les professeurs, c'est vraiment c'est pas normal. Donc en fait, on fait des réformes, mais on ne s'assure pas qu'on peut les appliquer correctement et ça vraiment c'est scandaleux. Donc voilà, donc il y a le problème effectivement des classes surchargées. Il y a aussi un autre gros problème dans notre établissement, c'est qu'il y a eu la suppression totale des ateliers. Donc à la base, il y avait du théâtre, Sciences Po, etc. Depuis cette rentrée, il n'y a plus rien. Donc en fait, on fait des cours aux élèves et on leur dit au revoir, ciao. Quoi. Donc il n'y a rien à côté.
Cette suppression là du théâtre, tout ça, c'était pour faire place aux spécialités. Exactement, de la réforme.
Voilà. Exactement, tout à fait.
Donc au final, on y perd plus que...
On y perd totalement.
D'accord, très bien. Alors Célia, vous étiez en grève aussi
Alors nous, on ne s'est pas mis en grève dès la rentrée. On a commencé les cours normalement et on a découvert au fur et à mesure tous les problèmes. Parce qu'au départ, on n'avait pas de visibilité en fait, sur les emplois du temps des classes, enfin sur rien. Et au fur et à mesure qu'on prenait les élèves en classe, on constatait des problèmes. Donc par exemple, déjà les emplois du temps des élèves qui ont été faits... de manière catastrophique. Des élèves ont 9 heures de cours par jour, pas de pause méridienne parfois, des heures de trou à n'en plus finir.
Donc ça, c'est dû, pareil...
Donc ça, c'est dû à la réforme et à la manière dont on a posé les créneaux de spécialité. Enfin, c'est assez technique. Alors, bon. Voilà, alors les emplois du temps qui sont absurdes en plus, parce que par exemple, il y a énormément d'heures en classe entière en fin de journée, enfin des choses qui sont complètement contre-productives pédagogiquement. On a aussi, comme chez mon collègue, des problèmes par rapport aux options. Les élèves ne peuvent suivre aucun cours d'options, des options qui sont pourtant... inscrite dans la dotation du lycée, enfin des vraies options. On a beaucoup d'options dans mon lycée, latin, théâtre, art plastique, et les élèves ne peuvent suivre aucune de ces options parce que les créneaux n'ont pas été libérés. Donc nous, les profs, on avait sur notre emploi du temps les options, et les élèves de première, non. Voilà. Ils ne peuvent pas non plus suivre les activités sportives, qui sont pourtant réglementaires. Hein. Tous les élèves lycéens doivent pouvoir suivre ce qu'on appelle l'AS. Et c'est pareil, les élèves avaient cours d'autres disciplines au moment où le créneau d'AS était prévu. Voilà. Donc, quand on s'est rendu compte de ça... On a débrayé. On avait aussi beaucoup de problèmes matériels locaux parce que notre lycée est en chantier. Et donc, on a de gros problèmes aussi d'informatique. Alors même qu'on doit passer au tout numérique, on nous a imposé les manuels numériques alors qu'on était contre. Ouais. Donc voilà, un passage en force en CA. Et en même temps, on nous a supprimé un poste de référent informatique. Alors qu'on est en chantier, donc il y a plein de problèmes, voilà, et qu'on doit recevoir les ordinateurs bientôt. Enfin, on ne sait pas quand on va les recevoir d'ailleurs. Donc ça, les élèves n'ont pas de manuel, donc voilà. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Et puis aussi des classes surchargées. Enfin, pour moi, c'est la pire rentrée que j'ai connue en 12 ans. J'avais jamais vu ça dans mon lycée, des classes parfois à 36, 37. Donc, alors même qu'on nous a refusé l'ouverture de groupes de certaines spécialités sous prétexte qu'il n'y avait pas assez d'élèves, on ne veut pas qu'on ait de groupes, par exemple, de 2 fois 24, mais on remplit les classes en dépassant les 35 élèves. C'est un seuil qui dans mon lycée, n'avait jamais été dépassé. D'ailleurs, il n'y a pas la place dans les salles de mettre plus de 35 élèves. Donc, on est constamment en train de chercher des tables et des chaises. Voilà, donc c'est insupportable pour les élèves, pour les enseignants.
Ça, c'est quelque chose qui me surprend, le nombre d'élèves par classe. Je me dis, à un moment, il va y avoir une limite. Parce que, il y a une limite qui est donnée, mais tant qu'on peut en faire rentrer dans les salles, apparemment, on continue comme ça. Quoi. Donc, ça peut aller jusqu'à 37. Et j'entends dans certains établissements, c'est 38.
Oui, à force d'ajouter un élève par-ci, par-là, on va atteindre les 40. C'est pas normal qu'on dépasse comme ça des seuils. Moi, j'ai toujours cru que 35, c'était un maximum dans une classe, mais apparemment, ce n'est plus du tout le cas.
Et il faut compter aussi parfois certains élèves qui ont des AVS ou autres, donc ça fait une présence en plus. Et je me dis, à un moment, au niveau sécurité, il y a une limite de personnes qui peuvent rentrer dans une salle. Je pense qu'on va dépasser ça et qu'on va devoir faire cours dans des conditions.
De toute façon, on fait déjà cours dans des conditions matérielles inacceptables. Dans mon lycée, c'est aussi une des raisons pour lesquelles on a fait grève. Alors, comme on est en rénovation, on a encore des cours dans les vieux bâtiments, dans certains vieux bâtiments. Les fenêtres ne s'ouvrent pas, les stores ne s'ouvrent pas, ne se ferment pas, rien ne fonctionne. C'est vraiment des conditions d'accueil qui sont inacceptables pour les élèves. Et c'est toujours pareil, ça se passe dans les lycées de banlieue.
Mais de quoi vous plaignez? Vous allez avoir des tablettes ou des PC On a du budget pour ça. Hein.
Oui, des PC et pas de papier dans les toilettes, pas de fenêtres qui s'ouvrent ou qui se ferment. Enfin voilà, ça ne nous intéresse pas du tout les PC, franchement. Ouais. Enfin, je ne suis pas anti-nouvelle technologie, mais...
quand c'est imposé, déjà...
C'est imposé. On a dit vraiment en majorité qu'on ne souhaitait pas ça. De toute façon, on n'a pas... les conditions ne sont pas réunies pour que ça fonctionne. Les élèves ne pourront pas les charger. Ça va être...
On a une prise par salle. Enfin, donc, oui, avec les tablettes et tout ça, je ne sais pas comment ça va se faire. Ouais. Mais effectivement, donc on nous a imposé une tablette et PC. Donc déjà, les deux. Ça va être assez compliqué d'uniformiser tout ça.
Les deux.
Et donc pour les secondes, c'est des PC. Pour les premières, c'est des tablettes. Donc, va falloir qu'on s'habitue aux deux. Et c'est pareil. Avant, un élève qui oubliait son cahier ou son livre, OK, on peut partager. Là, une tablette, je ne sais pas. Une tablette qu'on a, mais qui n'a pas de batterie. Comment est-ce qu'on va faire ça? J'ai pas hâte qu'ils le reçoivent. Merci. Lise. Alors, comment ça s'est passé la rentrée?
Alors, je rejoins vraiment mes collègues. Hein. On a exactement le même genre de problème. On a exactement le même genre de problème dans mon lycée. Alors, nous, on avait déposé un préavis de grève dès juin pour le jour de la pré-rentrée. On a quand même fait la pré-rentrée, tout simplement parce qu'on voulait voir comment ça se passait et s'ils avaient réussi à faire les emplois du temps, surtout. Et du coup, on s'est mis en grève dès le premier jour de la rentrée, notamment pour des soucis d'emploi du temps. Parce que les emplois du temps avaient été faits en dépit du bon sens. On a beaucoup de collègues qui n'avaient aucun vœu respecté. Alors que tout prof a droit à au moins une demi-journée de libre dans la semaine pour préparer ses cours ou pour des raisons personnelles. Au-delà de ça, on s'est retrouvé à avoir cours généralement 5 jours sur 5 et avec des énormément d'heures de trou dans la journée, en sachant qu'on n'a pas d'espace pour travailler.
Oui, c'est ça. Voilà. Parce que le problème, souvent, les gens ont du mal à comprendre pourquoi on se plaint de nos heures de trou. C'est des heures où on est tranquille. Mais le problème, c'est qu'on est souvent bloqué dans notre établissement vu qu'on a des cours. Mais on n'a pas d'endroit pour travailler. On a la salle des profs, qui est un lieu de détente, généralement, de discussion. Donc, travailler en salle des profs, c'est impossible. Voilà, c'est très lent. Mais voilà, on n'a pas notre salle pour pouvoir bosser.
Et au-delà de ça, pour donner des faits concrets aux auditeurs, donc nous, on est, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, 88 profs. Mmh. Et on doit avoir 8 ordinateurs en salle des profs. Donc, en réalité, et on le savait, hein, dès qu'il y a une heure de libre et qu'on est beaucoup de profs à avoir une heure de libre, y en a certains qui ont accès aux ordinateurs et qui peuvent avancer un petit peu sur leurs cours et autres. Et les autres qui se retrouvent sans rien faire. Enfin, s'ils ont des copies, ils corrigent les copies, très bien. Ouais. Mais par exemple, à la rentrée, les 2-3 premières semaines, on n'a pas de copies. Donc finalement, on s'est retrouvé avec des heures de trou perdu. Et finalement, le travail qu'on n'avait pas pu faire pendant la journée, on devait le refaire le soir en rentrant. Et du coup, ça crée un rythme et une fatigue dès les premières semaines.
Surtout que par rapport au travail sur ordinateur, ce qui est nécessaire de plus en plus, c'est de remplir le cahier de texte numérique.
Voilà, Pronote.
Ça prend énormément de temps. De mettre les notes en ligne, etc. Donc, effectivement, avec 8 ordi, nous, on en a 2 pour 30 profs dans notre salle des profs. Donc, quand il y en a un qui remplit ses notes, on fait la queue littéralement derrière. Donc, moi, je me suis acheté mon ordi pour pouvoir bosser.
Mais c'est pas normal.
Utiliser son propre salaire pour pouvoir travailler dans des conditions décentes, c'est quand même...
Ou dans ce cas-là, le gouvernement nous offre un ordinateur et on travaillera avec l'ordinateur qui nous fournira. On amènera notre ordinateur portable et voilà. Mais
on n'y est pas.
Voilà, on n'y est pas. On n'y est pas encore.
Nous, on a reçu des tablettes quand même. Mais on ne peut rien installer dessus. Et on n'a pas Pronote. On utilise Pronote, nous, dans notre lycée. On ne peut pas installer Pronote sur la tablette. Donc, c'est assez... Pronote, c'est un logiciel pour rentrer les notes, les devoirs et tout ça. Et donc voilà, donc il y avait ces soucis de, donc, d'emploi du temps.
Il y avait des soucis d'emploi du temps. Donc, là, j'ai surtout parlé des collègues, mais bien sûr, si les professeurs ont des soucis d'emploi du temps, ça a une répercussion directe sur les emplois du temps des élèves, qui en fait ressemblaient à nos emplois du temps. C'est-à-dire, leur emploi du temps, c'est du 8h, 18h tous les jours, y compris le mercredi après-midi, avec des heures de trou un peu partout dans la semaine. Donc voilà, c'est la raison principale pour laquelle on s'était mis en grève dès le premier jour. Après, bien sûr, il y a des raisons beaucoup plus générales dont les collègues ont déjà parlé, mais on se mettait aussi en grève contre les réformes Blanquer, contre un bac qui va devenir finalement local, et contre les inégalités que ça va créer, les inégalités territoriales.
Alors mais ça, il y a beaucoup de gens, quand on parle donc du nouveau bac, qui ne comprennent pas en fait le problème, donc ils sont plutôt, ils se disent le contrôle continu, c'est une bonne chose, comme ça les élèves travaillent au fur et à mesure, ils ont des contrôles régulièrement, donc c'est bien plutôt qu'une épreuve finale. Donc c'est quoi le problème du bac, du nouveau bac?
Alors il faut savoir que déjà le compte, c'est pas du vrai contrôle continu. Ce qu'ils appellent contrôle continu, c'est des épreuves de bac que les élèves vont passer au fur et à mesure de l'année.
Donc c'est un peu de partiel, finalement.
Voilà, c'est un peu comme des partiels. À chaque fin, ça commence au deuxième trimestre de première, et ils vont avoir déjà des épreuves de langue, d'histoire. Bon, j'ai plus toutes les matières en tête, mais bon, voilà. Et tous les trimestres, à partir du deuxième trimestre de première, ils vont avoir des épreuves. Et c'est ça le contrôle continu. C'est pas le dossier, on va pas prendre leur dossier scolaire et on va mettre la moyenne note finale. Ça a rien à voir.
C'est les deux, en fait.
Bah, c'est un peu, oui, c'est un peu des deux, mais.
Non, désolé. Il y a une partie de vrai contrôle continu, c'est le bulletin scolaire, mais en effet, sinon on est dans une logique de partiel. Et les élèves, d'ailleurs, qui commencent à comprendre ça, ça les stresse beaucoup, alors qu'on leur a vendu un bac beaucoup moins stressant. En fait, moi, j'ai présenté ça à mes secondes. Ils ont halluciné de découvrir qu'ils allaient tout le temps être en préparation de bac.
Oui, parce que c'est ça. On nous a promis donc un bac no stress, avec c'est au fur et à mesure. Mais en fait, c'est juste que les élèves sont constamment en épreuve, donc ils sont constamment sous tension. À partir du deuxième trimestre de la première, là, ils vont être en panique. S'ils savent, et en plus, une épreuve qu'ils ont passée, est-ce qu'ils vont s'intéresser à la matière après, une fois que l'épreuve est derrière eux? Enfin, c'est assez complexe.
Oui, et les élèves de seconde m'ont dit, j'y avais pas pensé, alors ils m'ont dit, mais en fait, si on rate les premières épreuves de contrôle continu, on va être encore plus stressé pour les épreuves suivantes. Et c'est vrai que, bon, j'y avais pas pensé, mais ça m'avait un peu...
Parce qu'ils connaîtront là, cette fois, leurs notes au fur et à mesure, il me semble. On n'est pas très...
En fait, on ne sait rien.
Ouais.
Non, c'est vrai qu'on n'est pas informé, même le déroulement des épreuves. On ne sait pas vraiment en fait, sur quoi on va évaluer, je veux dire, nos inspecteurs. Moi, par exemple, je suis en mathématiques. On ne nous a pas dit qu'il faudrait, par exemple, le premier trimestre, voir tel et tel thème.
Ouais.
Donc, du coup, chaque prof va faire un peu sa progression, donc, c'est-à-dire la succession des chapitres comme il le souhaite. Mais au final, du coup, moi, je pense clairement, chaque lycée, voire même dans un lycée à long terme, il y aura plusieurs épreuves donc, pour des élèves. Donc, du coup, là, vraiment, c'est la destruction du bac national. En fait, ça sera des devoirs surveillés, des contrôles, et puis voilà. C'est malheureux parce qu'effectivement, comme le disaient les collègues, ça va creuser les inégalités territoriales. On sait très bien que les premiers qui vont être touchés par ces réformes, c'est les élèves des quartiers populaires, de campagne, voilà, de réseaux.
Oui, parce que leur bac aurait une bonne valeur que celui d'autres établissements. Parce que justement, vu que les épreuves sont un peu organisées selon les établissements, elles seront différentes, elles seront évaluées différemment. Voilà, selon d'où on viendra, le bac aura une valeur complètement différente. Alors que jusqu'à présent, on avait un bac national qui était corrigé de façon tout à fait anonyme.
Exactement. Donc, ça, les mêmes épreuves pour tous les élèves de France.
Ce qui était beau, quelque part. Alors, donc, vous dites que vous êtes mis en grève. Donc, c'est-à-dire que vous avez fait des jours où vous n'êtes pas venu travailler. Est-ce que c'était suivi dans vos établissements? Comment ça se passait? Comment ça se passait au niveau du suivi des collègues?
Alors, dans mon lycée, donc, à Saint-Denis, c'était... extrêmement suivi. Alors on a tenu 5 jours. Il y a eu aussi des élus qui sont venus nous soutenir devant le lycée. D'ailleurs, c'est grâce à la présence des élus que le rectorat a accepté de nous recevoir. Donc une délégation de mon lycée a été reçue au rectorat de Créteil. Il faut savoir que ça va faire plus de 2 semaines et on n'a toujours pas reçu de réponse officielle.
Alors, qu'est-ce que vous demandiez justement?
Plus de moyens en fait. Avoir plus d'heures pour avoir des classes moins surchargées. En fait, c'est quand même, moi ce qui m'énerve, c'est qu'on se met en grève pour travailler normalement. En fait, on demande la normalité. On ne demande pas non plus à avoir des classes à 10 élèves. Voilà, en fait, du coup, on perd nos salaires.
Ouais, pour avoir des conditions de travail décentes.
C'est quand même c'est dingue en fait. On nous comprend pas. En gros, vous avez des classes à 35, c'est pas la fin du monde. Alors oui, d'ailleurs, ça me revient en tête. Donc je ne faisais pas partie de la délégation, mais des collègues m'ont rapporté ce qui a été dit. Et justement, on leur a suggéré, vous savez, vous pouvez faire des économies localement, vous pouvez faire quelques cours dans l'amphi avec 60 élèves, ça vous permettra d'avoir d'autres heures, voilà. Donc c'est quand même fou ce qu'on a en face de nous, en fait, ils sont pas conscients, ils sont même pas... Je pense que si on met des gens du cabinet du ministre devant nos classes, ils ne tiendraient même pas une heure. Ils sont pas conscients en fait de la réalité du terrain et c'est vrai que c'est énervant, c'est vraiment énervant.
Déjà oui, faire classe à 35, c'est assez épuisant, alors, à 60. Parce qu'il y en a, oui, effectivement, les cours en amphi, ça a déjà été mentionné, mais déjà, au lycée, ils ne sont pas capables pour l'instant, les élèves, d'être à 60 dans une pièce et de pas partir en battle royale. Quoi. Enfin, c'est,
Non, mais ouais, donc c'est vrai que donc pour le moment, on est toujours en attente. Hein, donc là, on va se réunir avec les collègues. On a la FCPE qui nous soutient. Donc on va certainement mettre en place une action commune. Mais là, c'est vrai qu'on est un peu épuisé, hein, on ne va pas se mentir, parce que se mettre en grève dès la rentrée, c'est quand même épuisant. Après l'année passée, avec la grève du bac, hein, que je rappelle, et pas que. C'est vrai que là, on va se réunir et essayer de prendre des décisions pour la suite.
Surtout qu'à chaque fois, les jours de grève, il faut bien rappeler, c'est du salaire en moins.
Exactement.
Des journées de salaire en moins, et ça commence, ça fait un coup.
Exactement.
Donc c'est pour ça aussi, sur la durée, 5 jours, multiplié par le salaire qu'on a chaque jour en moins, c'est dur de rester en grève plus longtemps. Et d'autant plus si le rectorat vous accueille, on se dit, on peut terminer la grève, c'est bon, on nous écoute. Et puis après, c'est reparti et on vous fait patienter longtemps. Donc, c'est assez aberrant.
Ouais, donc, c'est vraiment, on a l'impression... en fait, c'est du mépris. Hein. Vraiment, on a l'impression que... En fait, on nous demande de travailler et de ne pas se plaindre, en fait. C'est vraiment enseigne et tais-toi. Et c'est vraiment énervant parce que, comme je l'ai dit, hein, on demande vraiment à travailler dans de bonnes conditions. Rien de plus, en fait. Mais pour eux, ça semble être, une demande...
Une demande de privilégié, genre de quoi vous plaignez.
C'est ça.
D'accord, merci. Lise, du coup, dans votre établissement, comment vous êtes organisée
Alors nous, ça a été surtout suivi le premier jour, massivement suivi. On était au lycée le matin, justement, pour expliquer aux élèves, aux parents... notre geste, on va dire. Et aussi, on était là pour rédiger justement des tracts pour mettre au courant les personnes et pour pouvoir diffuser ce tract et peut-être se mettre en lien avec d'autres établissements qui se seraient retrouvés dans la même situation que nous. Et donc, l'après-midi, on est allé à la manif qui était organisée pour rencontrer les collègues qui étaient aussi en grève. Et après, on a fait la semaine suivante, il y avait un jour de grève, me semble-t-il, oui. Et du coup, ça a été assez perlé depuis la rentrée. On n'a pas fait une grève aussi massive qu'à Saint-Denis, mais pourtant, le cœur y était. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on avait beaucoup suivi la grève du bac a été beaucoup suivie dans notre établissement. Et tout ce qui est rétention des notes également. Donc, c'est vrai qu'on était... Enfin, on est épuisé de se battre et sans qu'il y ait de réponse réelle.
Oui, c'est ça, parce que pour l'instant, à chaque fois, le ministère se défile. Voilà. On n'a pas de réaction. Donc, c'est vrai qu'on peut se demander à quoi bon continuer, quoi. Mais on a l'impression d'être les derniers à se poser la question, de se dire, mais est-ce que c'est normal ? Célia ?
Alors, dans mon lycée, on a fait grève seulement une journée. Pour faire la liste de tous les problèmes qu'on rencontrait et la faire remonter à la direction, on a alerté aussi la presse, mais on n'a pas eu beaucoup de retours. Comme notre proviseur a réglé quelques problèmes on a repris le travail, enfin, on a repris surtout parce qu'on nous a promis de régler les problèmes, mais en fait, il est clair que tous les problèmes ne sont pas résolus. Enfin, les emplois du temps devaient être refaits. En fait, c'est impossible de tout refaire, de tout remettre à plat. Donc voilà, là, c'est vrai que recommencer, c'est comme les collègues, on est un peu fatigué. On ne va pas faire grève toutes les semaines pour la même chose. On en a un peu assez de lancer l'alerte constamment et que personne ne nous écoute, que même les parents, les élèves... ne comprennent pas forcément pourquoi on fait ça. Bon. Donc maintenant, c'est un peu à eux de prendre le relais, je pense, aux parents, de se plaindre si leurs enfants ne peuvent pas suivre les enseignements ou ont des emplois du temps scandaleux.
Parce que là, donc, ce que vous avez mentionné, c'est à chaque fois des problèmes que rencontrent les élèves, finalement, des emplois du temps aberrants, des matières qu'ils ne peuvent pas suivre, etc. Donc eux, comment ils réagissent face à tout ça? Est-ce que...
Les élèves ouais. Alors quand on a fait grève, on était devant le lycée, on a fait des sortes de petits happenings. Bon, des élèves sont venus nous soutenir. On parlait aussi à un journaliste indépendant qu'on avait contacté et qui était présent. Les élèves sont plutôt derrière nous, voire nous demandent de faire quelque chose. Il y a des élèves qui m'ont demandé la semaine dernière, mais qu'est-ce que vous faites, vous ? On peut pas aller faire du sport. Il y avait un club musique, ça peut plus exister non plus. Enfin,
oui, donc il voit bien qu'il y a quelque chose qui va pas.
Qu'est-ce que vous faites ? Donc moi, je leur ai dit qu'on ne cessait d'attirer l'attention là-dessus, mais bon, enfin. On ne peut pas non plus encourager les élèves à faire des blocus, c'est ça le problème, on n'a pas vraiment le droit.
Oui. Est-ce que d'ailleurs, dans certains établissements, il me semble qu'il y en a eu, Mohamed, des blocus, non ? C'était pas dans...
Donc non, nous ils ont tenté, mais c'est vrai qu'ils n'ont pas vraiment réussi, ouais. Mais il y a eu une tentative
de blocus.
Ouais. Et vu que j'ai le micro, je voulais juste effectivement rajouter un autre souci qu'on n'a pas évoqué, mais qui est très important, il y a beaucoup de postes non pourvus. Donc, il y a des élèves qui n'ont pas leur professeur dans certaines matières jusqu'à aujourd'hui. Donc, par exemple, chez nous, les terminales ST2S, donc c'est l'équivalent de sciences médico-sociales, n'ont pas leur professeur d'ST2S, justement, donc en terminale. Donc, c'est COEF, je ne sais plus c'est combien d'ailleurs, mais on est quasiment fin septembre, c'est scandaleux. Donc, et ce cas-là, il existe un peu partout. Ouais. Donc, c'est vraiment dramatique.
Ce qui est intéressant, c'est que le Figaro a parlé de ces postes non pourvus, il a parlé de professeurs absents. C'est pas la même chose. Un professeur absent, c'est un professeur qui a son poste et qui est absent pour des raisons X ou Y. Non pourvu, là, c'est qu'il n'y a personne pour prendre ce poste. Donc, c'est assez intéressant le traitement aussi qu'il y a de ces problèmes dans la presse ou à la télé. Bon, généralement, c'est pas de traitement, tout simplement. Ou quand ils le traitent, c'est tellement par-dessus la jambe que c'est fatigant aussi, finalement. Exactement. Parce qu'on a l'impression de crier, de s'époumoner, mais de rien avoir en face, quoi. Élise, dans ton établissement, à niveau élève ou parent, est-ce que vous...
Alors nous, il y a eu quand même pas mal de réactions puisqu'on a eu un blocus qui a tenu toute la journée, un blocus d'élèves. D'ailleurs, on était très surpris d'arriver un jour et de voir qu'ils avaient fait un blocus qui a été tout à fait pacifique. D'ailleurs, c'est bien passé. Ils ont rangé les poubelles à la fin. Enfin bon, voilà. Ils ont bien fait les choses. Ils avaient rédigé un tract pour expliquer justement leurs gestes. Et concrètement, voilà, c'était contre la réforme. Bon, il y avait aussi un reste de Parcoursup contre Parcoursup, vu que ça va...
Je crois que je l'ai vu circuler. Il n'a pas circulé sur Twitter
Si. Il y a un collègue qui l'a fait circuler. Et en fait, il se plaignait surtout du fait qu'il se retrouvait beaucoup dans des classes à 35. Et c'est vrai que nous, on est un établissement qui, historiquement, avait réussi à limiter jusqu'à cette année les classes à 35. On était plus sur des classes à 30. Mmh. Et les classes à 35, bon, il y en avait quelques-unes, mais c'était des terminales ou voilà, c'était assez limité. Et là, ils s'en plaignent beaucoup parce que les salles ne sont pas adaptées. Il fait très très chaud, c'est des salles toutes petites et on parque 35 élèves dans ces salles-là. Et aussi, il se plaignait beaucoup du fait qu'il n'y ait plus de structure de classe en première, étant donné que chaque élève a un emploi du temps individualisé et qu'il se retrouve en classe qu'à quelques occasions dans la semaine. Et du coup, ils sont complètement perdus et puis...
Il n'y a plus de cohésion.
Il n'y a plus de cohésion, c'est exactement ça.
Donc, ouais. Oui, c'est parce qu'il n'y a plus les filières S, ES, L, etc. comme avant. Donc maintenant, chaque élève a son parcours individualisé, effectivement, comme ça, avec ses spécialités, ses options ou autres. Et ils se croisent que dans leur tronc commun, ce qui est très peu d'heures dans l'emploi du temps. Et c'est vrai que du coup, il n'y a plus vraiment... Avant, on avait les premières S2, les machins. Là, on a, nous, une vingtaine à chaque fois de parcours différents hein, d'une même classe. Ouais. Donc c'est dur pour eux, parce qu'ils sont isolés, quoi. Enfin, eux-mêmes...
Ils sont isolés, et puis ils mettaient dans le tract que les profs n'avaient plus le temps de s'occuper d'eux. Ben, et alors, ça, c'était pas une critique hein, de notre métier. Ce qu'ils voulaient dire par là, c'est que du coup, les profs ne les connaissaient plus, étant donné que on les voit moins ou alors on les voit mais dans des classes à 35, donc on remarque pas autant des élèves qui auraient besoin d'attention.
Et puis vu qu'on parle des élèves, donc j'enseigne justement la spécialité mathématiques en première générale, donc je rappelle rapidement que les maths ont été supprimées du tronc commun. Du coup, j'ai un groupe à 33 élèves, donc souvent d'ailleurs en fin de journée, hein, de 16h à 18h, hein, bon, on ne dira rien. Et justement, j'ai des élèves qui viennent me voir à la fin de ces 2 heures et qui me disent « Monsieur, on ne comprend rien, vous allez trop vite ». Mais en fait, je me sens totalement impuissant parce que j'ai un programme assez chargé. Je rappelle que le programme de spécialité en mathématiques en première, c'est l'équivalent, j'ai envie de dire, d'un programme de première S bodybuildé, si je peux me permettre. Hein. C'est S+, quoi. Du coup, il n'y a plus l'intermédiaire comme avant. Avant, il y avait les maths en ES étaient différentes des maths en S.
Oui.
Du coup, aujourd'hui, c'est soit on fait des maths très dures, soit on n'en fait plus du tout. Et du coup, beaucoup d'élèves ont pris les maths pour justement avoir plus d'opportunités par rapport à Parcoursup. Car effectivement, si on ne fait plus du tout de maths, y aura certaines écoles qui n'accepteront pas les élèves.
Oui, parce que même si on a supprimé... Donc l'idée, c'était de supprimer la filière S parce que c'était celle dans laquelle tout le monde s'engouffrait. Mais au final, les élèves prennent option maths, c'est option sciences et option... Enfin, ça revient au même.
Exactement.
Sauf qu'ils sont dispatchés maintenant dans plein de groupes.
Voilà. Et du coup, vraiment, j'en ai discuté avec mes collègues, c'est pareil. On se sent impuissant. En fait, on ne peut pas les aider. On n'a aucun dédoublement. Des classes à 33, 35, franchement, c'est pas possible, c'est catastrophique.
C'est pas motivant tout ça. J'ai eu plusieurs demandes, donc j'ai parlé de ce thème d'émission sur les établissements en lutte. Et une question qui revient souvent, c'est comment est-ce qu'on peut vous aider, les gens extérieurs qui sont pas forcément élèves ou parents. Donc, moi, ma réponse à chaque fois, c'est juste partager ces informations parce que c'est des infos qu'on n'a pas vraiment l'occasion de lire. Genre là, tout ce que j'entends, moi je suis au courant parce que je travaille dedans, donc ok, mais les parents d'élèves ne sont pas forcément au courant non plus. Les gens qui travaillent dans d'autres milieux, ils sont pas... Donc, on peut effectivement partager ces informations. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Effectivement, les réseaux sociaux, car on l'a un petit peu dit tout à l'heure, on n'est pas aidé des médias en fait. Effectivement, les manifestations, c'est pas très vendeur. Les médias, ça les attire pas. Les manifs de profs, c'est des feignasses qui se plaignent comme d'hab.
Puis on pète pas assez de trucs, nous. On est très gentils.
On est un peu trop gentils, je pense. Effectivement. Donc effectivement, les réseaux sociaux. Après, je rappelle qu'il y a eu des collectifs qui sont nés, donc notamment les Stylos Rouges, Blocons Blanquer. Il y en a sans doute d'autres que je ne connais pas. Mais déjà partager effectivement toutes ces informations-là qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Après, en tant que parent d'élèves, j'ai envie de leur dire d'essayer vraiment de rencontrer les professeurs, de voir ce qui ne va pas, de se renseigner parce qu'effectivement, là, c'est tout nouveau et franchement, tout le monde est perdu en fait, que ce soit les élèves, les enseignants, on n'a pas toutes les informations et c'est un peu énervant en fait. On a l'impression qu'on est en train de changer de métier quelque part. Moi, personnellement, je n'ai plus le même plaisir qu'avant. Là, je le vois avec ma classe de première. D'ailleurs, je ne sais pas c'est quoi la volonté, hein, si c'est de dégoûter le peu de professeurs titulaires qui existent. Car je rappelle que notre métier, quand même, n'est pas attractif. L'État fait beaucoup appel aux contractuels, mais même les contractuels, il en manque. Donc... vraiment, là, ces réformes n'arrangent rien du tout. Et pour moi, on assiste vraiment à la casse du service public d'éducation.
Est-ce que c'est volontaire, du coup ? C'est la question que je me pose, moi. Est-ce que c'est volontaire ? Est-ce que le but, c'est d'avoir moins de profs titulaires, plus de contractuels ? Est-ce que c'est une théorie du complot ou est-ce que c'est pas si aberrant que ça ?
Moi, je pense que oui, ça doit être volontaire, clairement. Sinon, le gouvernement ne se lancerait pas dans ce genre de réforme. Il y a une volonté de faire des économies. Et c'est vrai qu'un prof contractuel, ça coûte quand même moins cher qu'un prof titulaire.
Donc, pour rappel, un prof contractuel, donc il fait le même métier. C'est juste qu'il n'a pas le CAPES, mais il a un niveau d'études qui lui permet normalement de prendre ses classes. C'est juste qu'il est payé moins. Mais au niveau du travail fourni, on est d'accord que c'est la même chose.
Et c'est très précaire. Parce que souvent, c'est des collègues qui vont savoir 3 jours avant la rentrée où ils vont finalement être...
Voilà. Mais du coup, vu qu'ils sont précaires, on peut les caler là où il manque des postes. Ouais. Donc c'est, du point de vue de l'État, c'est mieux d'avoir des profs contractuels que des profs titulaires.
Oui, et aussi parce que les profs contractuels font beaucoup moins grève que les profs titulaires parce qu'ils sont précaires. Donc c'est bien plus intéressant.
Donc on va vers ça.
Probablement. Oui. Après, oui, pour revenir à ce que pouvaient faire les parents d'élèves, ouais. J'avais envie de dire, les parents, ils peuvent contacter les directions d'établissement pour signaler les problèmes. Parce que nous, quand on signale les problèmes, on ne nous écoute pas trop, les élèves non plus. Ce qui marche, c'est quand les parents font quelque chose, alors qu'ils n'hésitent pas à se mettre de notre côté en portant les mêmes revendications que nous, puisqu'elles sont de toute façon pour le bien-être des élèves.
Et je me souviens quand j'étais en manifestation en juin là, par rapport aux réformes du bac, tout ça, je discutais avec des collègues et qui me disaient, enfin, qu'ils étaient étonnés de voir qu'à cette manif, il n'y avait que des profs. Que jusqu'à il n'y a pas si longtemps, dans les manifs, il y avait les parents aussi. Et que du coup, ils sont moins mobilisés, ils sont plus derrière nous. Donc ça serait peut-être intéressant pour eux de venir aussi, quand il y a des appels à manifester, de se rendre compte que l'éducation, ce n'est pas qu'une question de prof, c'est une question de parents aussi.
Oui, mais ça me paraît une belle utopie de penser que les parents vont être derrière nous en manif.
Ils vont bien
se rendre
compte à un moment que
il y a un problème,
qu'il est temps d'agir, mais...
Oui, ce serait bien. Mais ça concerne tout le monde, hein. C'est un problème de société. Je veux dire, c'est les futures générations qui vont se retrouver ensuite sur le marché du travail et qui vont se retrouver forcément en difficulté. Donc je veux dire, ça concerne tout le monde. C'est ça que les gens, qu'on aimerait que les gens comprennent. Arrêtez de taper sur les profs.
Y a des collègues souvent qui sont... qui m'ont envoyé des messages, qui ont un peu peur, qui me disent « Mais comment vous faites pour vous engager ? Vous n'avez pas peur que l'administration puisse vous empêcher d'évoluer ? Vous n'avez pas peur que le chef d'établissement puisse, je sais pas, se venger de vous ?» Enfin voilà, j'ai reçu par rapport aussi à l'article 1, devoir de réserve, tout ça, des collègues qui ont peur, en fait, de se mobiliser. Vous n'avez pas peur ?
Enfin, c'est un peu étrange parce qu'on a quand même... pas vraiment de possibilité de faire carrière dans l'éducation nationale. Alors, de quoi ont-ils peur ? C'est quand même, je pense, assez rare d'être rétrogradé d'échelon ou ce genre de choses. Enfin, on ne va pas nous licencier. Enfin, je ne pense pas.
Il n'y a pas eu de cas jusqu'à présent. Il y a eu des mutations d'office l'année dernière.
Oui. Non, mais c'est vrai que oui, le climat a un peu changé. Il commence à y avoir des conséquences. Mais enfin... Si 50 profs d'un établissement sont en grève, il ne va rien se passer pour eux. Ouais. Justement, il faut qu'on soit nombreux pour qu'il n'y ait pas de mesures punitives.
Et d'ailleurs, tout ça, tout ce que vous organisez là, dans vos établissements, est-ce que c'est les syndicats qui les organisent ou est-ce que c'est vous, dans votre équipe, au sein de l'établissement, qui organisez ça ? Est-ce que comment vous gérez ça ? Parce qu'on a l'impression qu'on est un peu dans un cul entre deux chaises. Il y a d'un côté des groupes de profs sur Facebook du stylo rouge, de l'autre les syndicats. Parfois, ils font un peu la guéguerre entre eux, parfois ils soutiennent. C'est assez compliqué. Comment on fait grève, en fait ? Comment on se retrouve avec des équipes à 80 profs qui s'engagent ?
En tout cas, pour parler d'Angela Davis à Saint-Denis, c'est vrai que c'est localement, hein, c'est les collègues, en fait, on a pris la décision de se mobiliser seul, en fait. On n'a pas attendu que les syndicats... Après, effectivement, on a besoin des syndicats car ils ont déposé un préavis de grève durant tout le mois de septembre. D'ailleurs, je crois que suit même jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc effectivement, on a besoin des syndicats. Par contre, je pense que aujourd'hui aussi, notamment les manifestations, les grèves perlées, on l'a vu, ça mène à rien, en fait. Du coup, Effectivement, il faut revoir les différents modes de mobilisation. J'ai beaucoup de collègues, faire une grève perlée, ça ne les intéresse pas. Par contre, si on leur parle de grève reconductible, ils disent pas de souci, par contre, il faut me prévenir un peu en avance.
Ouais,
Comme ça, je m'organiserai, mettre un peu des sous de côté, surtout quand on a des enfants, etc.
Mais il faut que ce soit massif.
Après, effectivement, on a quand même besoin des syndicats car je pense niveau communication, voilà, ils peuvent effectivement…
ils ont accès à nos boîtes mail.
Tout à fait. Ils peuvent contacter l'ensemble des profs, des directeurs, etc. Je veux dire, tous les personnels de l'éducation nationale. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'impression d'être dans une impasse en fait parce que ce qui se passe à l'éducation nationale est très, très grave. Mais à côté, il y a des petites mobilisations, mais ce n'est pas suffisant. C'est vraiment pas suffisant.
Et on a l'impression, enfin personnellement, j'ai l'impression que c'est les syndicats maintenant un peu suivent ce qui se crée au sein des établissements. Genre par exemple la grève, la rétention des notes, c'était pas une idée des syndicats au début. Il y a des profs qui étaient motivés, voilà, via les groupes style rouge et tout. Et ensuite les syndicats ont suivi, mais c'est plus eux qui lancent.
Justement, en parlant de style rouge, donc je fais partie de ce collectif. L'année dernière, justement, on avait entre guillemets menacé le ministre de justement la grève du bac. Donc dès le mois de janvier-février. Donc c'est vrai que certains syndicats étaient un peu frileux. Bon, après, ils ont vu que beaucoup de collègues étaient vraiment en colère. Du coup, ils ont suivi le mouvement. Mais c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils... Ils ont peur, en fait, justement, de mener la lutte, en fait. Ils suivent un peu, ils prennent la température. Et ouais, donc ça, par contre, c'est vrai que c'est un petit peu préoccupant parce que, en fait, sans les syndicats, avoir vraiment une action forte au niveau national, c'est très compliqué.
Pour l'instant, on est sur des luttes niveau local, donc tout dans chacun fait. De vos établissements pour des raisons assez similaires, finalement, mais locales. Et donc ça, pour s'organiser localement, voilà, il suffit de s'organiser entre profs, dans la salle des profs, de communiquer. C'est comme ça que vous avez géré ça. Ouais.
Je pense qu'effectivement, il y a beaucoup de collègues qui sont un peu résignés, abattus. Ils sont contre tout ce qui se passe. Mais en fait, ils se disent qu'on, devant nous, on a un gouvernement en fait, qui fait la sourde oreille. On le voit bien, hein, il n'y a pas que l'éducation, il y a la santé. De manière générale, les gilets jaunes. Je veux dire, on est vraiment dans une époque là où on peut dire que c'est un peu la crise hein, en France. Là. Mais l'État ne recule sur rien en fait. Du coup, ça, c'est vrai qu'il y a certains collègues, ils se disent, on a beau aller dans la rue, ça va rien changer en fait.
Mais vous continuez.
On continue tant qu'on peut. Moi personnellement, pour répondre à la question du droit de réserve, je n'ai pas peur. À partir du moment où je manque pas de respect, je veux dire à ma hiérarchie, à l'institution, il n'y a pas de souci. Donc je vois.
Ça reste
pas...
un droit constitutionnel de faire grève.
Tout
de
à
se
fait.
Défendre,
Voilà.
Et puis en réalité, on les critique pas. Enfin, on les alerte plus. C'est plus voilà, ça va plus dans ce sens-là. Faut pas l'oublier.
C'est vrai que j'ai l'impression que les profs sont un peu peureux par essence. C'est d'anciens bons élèves, souvent, qui avaient peur du prof, avaient peur du CPE, et du coup, maintenant, ils ont peur du ministre. Alors que, je sais pas, on a le droit quand même, pour l'instant, d'être en colère, on a le droit de le dire, quoi.
Oui, mais c'est pas toujours facile, finalement, de mobiliser une salle des professeurs, hein, parce que, je sais pas, ça a l'air... simple chez mes collègues, mais c'est vrai que décider de se mettre en grève, c'est quand même pas quelque chose qui arrive tous les deux jours. Il faut déjà réunir tous les profs d'un établissement en AG, c'est compliqué quand même.
Oui, c'est vrai que nous, on fait des AG régulièrement, mais c'est un peu toujours les mêmes qui viennent aux AG, qui viennent se renseigner et qui, qui parlent de ce qui se passe, qui rédigent les différents tracts. Donc, c'est vrai que c'est pas si simple que ça. Voilà.
Et je voulais juste aussi rajouter quelque chose. Notamment en Seine-Saint-Denis, il y a beaucoup de contractuels. Et vu la précarité de leur statut, ils ne peuvent pas se permettre de se mettre en grève, de dire non à la direction, car sinon leur poste en fait saute automatiquement. Et ça, effectivement, ça ne nous aide pas. Donc la précarisation du métier, en fait, on est vraiment dans le mode de fonctionnement enseigne et tais-toi, quoi.
Ouais.
Donc c'est un peu inquiétant.
Ok. Bon, alors petite dernière question avec peut-être un peu de positif là-dedans. Donc avec tous ces problèmes, donc techniques ou autres, les réactions, le manque de réaction du ministère, comment est-ce que vous trouvez la force, la foi de continuer d'enseigner? Est-ce que vous l'avez... les haussements de sourcils Parce que pour l'instant, vous n'avez pas démissionné. C'était censé être la note d'espoir, ça.
Non, mais je pense qu'on continue tous pour la même raison, pour les élèves. Parce qu'ils nous donnent aussi beaucoup. Et finalement, bon, ce qu'on essaye de faire, malgré ce contexte très difficile, c'est de se concentrer sur eux et de voir ce qu'on peut faire avec eux et quel, ce qu'on peut partager. Et voilà. Et puis, parce que malgré tout, on veut tout faire pour les aider et pour les voir réussir. Alors, dans un contexte difficile, mais bon. Voilà, on se dit que de toute façon, il faut mieux essayer de faire quelque chose et qu'il y ait un petit peu de positif qui en ressort que de baisser les bras et voilà.
Donc, je rejoins ma collègue. Effectivement, c'est les élèves et je pense que la plupart des professeurs, voire même de manière générale, les personnels de l'éducation nationale, si on a fait ce métier, c'est quelque part, c'est qu'on aime bien ça, c'est que voilà, on aime bien le contact, transmettre des savoirs à nos élèves, les accompagner dans leur éducation, etc. Mais c'est vrai que le contexte actuel nous aide pas trop. Je vais peut-être un petit peu casser le moral, mais moi, c'est vrai que je me pose par contre sérieusement beaucoup de questions sur mon avenir professionnel. J'aime ce métier, hein, donc ça m'embêterait vraiment de le quitter. Mais c'est vrai que je me pose la question. Est-ce que je continue ou est-ce que je plaque tout?
D'accord. Célia ?
C'est un peu la même chose. Je pense que les professeurs qui se mobilisent beaucoup sont souvent des professeurs qui aiment leur métier et qui apprécient de travailler avec les élèves. Donc c'est dommage d'avoir le sentiment de devoir aller à l'encontre de ce que l'institution nous demande, enfin, de devoir lutter contre l'institution pour faire notre métier. Mais notre métier, quand même, on l'aime.
Oui, le cœur du métier, quand on est face à nos élèves.
Oui, c'est ça.
On est bien.
Bon. Donc, il n'y a pas vraiment de contradiction, je pense.
Mais ce qu'il faut noter aussi, c'est que malgré tout, t'en parlais là, par rapport à... tu te poses des questions, j'ai l'impression que de plus en plus de profs, c'est très fréquent dans la salle des profs d'avoir des collègues qui se disent « bon, j'arrête quoi, enfin je commence à vraiment en avoir marre ». Et il me semble d'ailleurs que le taux de démission augmente là depuis des années et je crois que ça va s'aggraver là avec ce qui arrive. Avec là aussi des profs à bout quoi, juste en burn-out ou autre quoi.
Non, justement, je voulais rebondir par rapport aux événements avec le suicide de la collègue Christine Renon, donc à Pantin. Et vraiment, ça traduit un mal-être au sein de notre profession, en fait. Il y a vraiment un mal-être. On nous demande d'en faire plus, mais avec moins de moyens.
Crachant un petit peu au visage.
Donc, que ce soit les directeurs, les enseignants, les CPE, je veux dire, vraiment, on est tous à bout, en fait. Et on ne se sent pas écouté. C'est vrai que c'est usant et c'est vrai qu'il y a de plus en plus de collègues qui veulent quitter l'éducation nationale. C'est malheureux hein, parce que du coup, l'avenir de la France, ça fait un peu peur en fait. Parce qu'une société, je veux dire, la base dans une société, c'est quand même l'éducation, la santé. Voilà.
Et la foi enfin, pour les générations futures, de les accueillir au mieux dans notre société.
Tout à fait. Mais là, on a l'impression qu'on est en train de casser un petit peu tout ça et c'est quand même préoccupant pour l'avenir.
Lise.
J'ai pas grand chose à rajouter là-dessus. Peut-être une petite chose, ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est qu'il y a aussi beaucoup de collègues qui se mettent en temps partiel, donc qui demandent d'avoir un temps partiel parce que c'est au bout d'un certain nombre d'années, ça devient fatigant. Et là, les dernières années ont été particulièrement rudes. Et du coup, il y a aussi beaucoup de professeurs qui n'acceptent plus de faire d'heures sup, alors que ce n'était pas vraiment le cas il y a quelques années. On arrangeait un petit peu l'administration qui nous disait « bon là, on ne peut pas créer un nouveau poste, il y a 8 heures, il faudrait que vous répartissiez les heures ». Je sais que, en tout cas dans mon établissement, depuis disons l'année dernière, même l'année d'avant, on est de moins en moins à prendre des heures supplémentaires et on refuse, on fait notre service. Mais parce que déjà, faire notre service, ça demande énormément d'énergie et beaucoup de travail en plus.
Il y a aussi des professeurs qui refusent d'être professeurs principaux, qui est un mode d'action aussi qui existe, de plus organiser de voyages scolaires, parce que bah voilà,
oui,
on nous dit
c'est ça qui est à craindre quand même, parce que l'école tient par l'investissement personnel des gens, et si les collègues cesse toute activité au-delà de leurs heures de cours, les sorties, les voyages scolaires, ça va être embêtant pour tout le monde. Donc c'est vraiment dommage.
Et justement, pour rebondir sur ce point-là, j'ai accueilli des parents de seconde la semaine dernière. Et la première question qu'ils m'ont posée en tant que professeur principal, c'est est-ce que vous allez faire des projets avec les élèves ? Et je me suis un petit peu retrouvée dans une situation très délicate et je leur ai expliqué que, étant donné la réforme qui est en cours et tous les cours à refaire, mais aussi toute l'énergie que nous demande de faire cours à 35 et autres, je ne pouvais pas leur promettre que j'allais mener des projets avec la classe. Alors que c'est quelque chose que j'ai fait tous les ans. Je faisais toujours un gros projet. Pareil pour les voyages scolaires.
C'est quand même chouette.
Et puis parce que, il faut le dire, ces projets, ils nous donnent tellement en retour que voilà, on est content de les faire. Mais là, on arrive à un stade où tout projet autre que juste donner les cours va être compliqué. Voilà.
Oui, et on entend beaucoup de ça en salle des profs, des collègues qui disent « moi maintenant je vais faire le minimum ». Et c'est vrai que si on se contente de faire le minimum, personne ne sera content, ça conviendra à personne en réalité, et pas à nous non plus. Mais quand on est trop fatigué, on fait le minimum. Et finalement, étant donné qu'on a l'impression parfois qu'on nous demande de faire de la garderie, et c'est tout, on va se retrouver avec des profs qui font réellement de la garderie pour tenir psychologiquement, voilà.
Puis c'est vrai que notre charge de travail a considérablement augmenté ces dernières années. Je rappelle que les professeurs principaux font de l'orientation. À côté de ça, on ferme les CIO. Donc, en fait, on nous demande vraiment de faire plus. Donc, des choses d'ailleurs dont on n'a pas été formé. Hein. Donc, moi, vraiment, professeur principal, si je peux éviter, j'évite. Hein. Parce que surtout en seconde, c'est horrible. C'est vraiment horrible. Donc, on nous demande d'en
et
faire
pour,
plus.
Et pour quoi ? C'est 100 euros par mois, 90 euros ?
Voilà, oui, environ. Donc, mais une charge de travail immense. Et surtout, l'année dernière, j'ai eu des collègues professeurs principaux de seconde. Avec la réforme, on ne connaissait encore vraiment rien. Informer les élèves, c'est difficile. Donc, vraiment, on ne sait pas où on va. Mais ça fait un peu peur. Et à côté de ça, il faut aussi rajouter le fait que notre métier n'est pas attractif déjà par rapport au salaire. On est quand même parmi les derniers dans l'OCDE en France. Donc je veux dire, un pays où le métier d'enseignant n'attire pas, c'est quand même inquiétant. Parce que comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'avenir du pays qui est en jeu en fait.
Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'être venu, merci vous trois. Et bon courage à vous pour la suite. On espère que ça va se résoudre. Merci.
Merci.
Et voilà.